Bonjour à tous, vous écoutez Ouvre-la, une émission de lycéens. Comme d'habitude, j'anime l'émission en compagnie de mon père. Salut.
Bonjour.
Voilà, on est en direct des studios de Cause Commune.
Et on est le 30 novembre.
Ouais, 30 novembre 2025, vous nous écoutez soit en direct du coup en FM 93.1 ou en DAB ou sur le site de la radio
cause-commune.fm.
Voilà, si vous nous avez raté et que vous nous écoutez un autre jour, vous pouvez toujours nous écouter sur le site de la radio en podcast.
Ou peut-être que vous écoutez une rediffusion de l'émission.
Voilà. Bon, du coup, on est fin novembre, et c'est vrai qu'il y a eu plein de trucs cool qui sont arrivés pour les jeunes pendant ce mois, quoi. Il y a eu le 6 novembre, la journée de lutte contre le harcèlement, et on a vu des jeunes s'organiser dans leurs écoles un peu partout en France pour lutter contre le harcèlement collectivement. Il y a eu pas mal de messages assez jolis, et c'était assez beau de voir toutes les communautés éducatives s'organiser comme ça. Comme chose intéressante concernant les jeunes aussi, il y a eu le rapport de la Convention citoyenne sur le temps des enfants qui propose plein de moyens d'améliorer la vie à l'école. Le 25 novembre, c'était la journée contre les violences faites aux femmes. Dans mon lycée, il y a eu une action à cette occasion et d'ailleurs, on va vous en parler un peu aujourd'hui. Donc voilà, en fait, que des trucs géniaux pour les jeunes en ce mois de novembre. Et après, il y a eu un discours d'une certaine personne qui a un peu tout gâché. Aujourd'hui, on va vous parler de ce discours mystère, de ce que ça implique pour les jeunes. Je vais aussi parler du coup des projets pour l'égalité dans mon lycée. Et s'il nous reste du temps, on parlera un peu de droit avec le Conseil des Prud'hommes, notamment. Voilà.
T'es allé au Conseil des Prud'hommes ?
Non, mais j'ai fait... En fait, je suis en option droit au lycée, du coup j'ai eu l'occasion de faire un exposé, d'apprendre des trucs très très cool dessus, de voir que c'était quelque chose d'assez intéressant.
Le Conseil des Prud'hommes, on peut dévoiler déjà que c'est le droit du travail.
C'est le droit du travail notamment, et le droit du travail privé.
On en parlera en fin d'émission.
Si, oui c'est ça. Voilà. Mais du coup, pour notre premier sujet, c'est... un discours, enfin ça part d'un discours du chef d'état-major. Alors chef d'état-major c'est Fabien Mandon, et le 18 novembre il a parlé au congrès des maires. Dans son discours il a parlé de la guerre, c'est assez normal, c'est un militaire. Il a parlé de faire la guerre bientôt, et ça c'est compréhensible, j'ai envie de dire, c'est l'ambiance ces derniers temps. Et puis après, il a dit ça.
Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche, parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut, dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque.
Ah oui, perdre ses enfants, il a dit.
Voilà. Il faut accepter de perdre nos enfants. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce discours? Tu l'as entendu, j'imagine.
Oui, bah c'est un discours de militaire, quoi.
Ouais, mais bon, quand même, alors ça, c'est un truc. Le discours de « il faut accepter de perdre nos enfants », personne n'était allé jusque-là depuis un petit moment, quand même.
Bah, on l'entendait quand le président Macron dit « il faut se réarmer démographiquement ». Moi c'est ce que j'ai entendu derrière, c'était juste l'étape, donc là c'est un pas en plus effectivement, mais c'est un pas dans la même direction que celle qui avait été donnée précédemment, et ce que on sent bien qu'on nous pousse dans le dos pour avec le nationalisme, avec le bellicisme, pour aller faire la bagarre, quoi.
C'est vrai que, enfin moi, ce discours de, effectivement, un jour il va falloir faire la guerre, et bon là la question, on n'a pas l'extrait de, enfin tout le discours, mais il parle de la Russie en fait. Et c'est un discours que, oui, on reconnaît, et ça fait un moment, enfin ça fait d'ailleurs depuis que je suis petit, hein, que j'entends des discours alarmistes quant à la guerre, comme quoi la guerre c'est pour demain. Là, le chef-major des armées, alors on n'a pas non plus l'extrait, mais il dit « Selon les informations que j'ai, ce serait dans 3 à 4 ans qu'on fait la guerre. » Donc en fait, on a une date. Mais moi, la question que j'ai, c'est si ce discours qu'on a depuis des années, enfin, visiblement pas. Si on nous dit qu'on va faire la guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on nous dit « Dans 10 ans, on va faire la guerre. » Et en fait, à chaque fois, c'est l'année prochaine, c'est la guerre, et ayez peur. On a eu la guerre froide, hein, où c'est vrai qu'on n'était pas loin. Et pourtant, bah non, on n'a pas eu.
L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que, à mon sens, hein, c'est pas parce que la guerre est probable, peut-être qu'elle est probable, et qu'on a réussi à l'éviter jusque-là, qu'il ne faut pas s'y préparer. Ensuite. Il y a la manière dont on s'y prépare, et là, la manière dont ils nous proposent de nous préparer à la guerre, c'est en s'habituant à envoyer des gens mourir, quoi.
Bah.
Alors qu'il y a des tas d'autres choses à faire avant, notamment la diplomatie. On sait, par exemple, que depuis une dizaine d'années, la démocratie française a été mise à genoux, avec un président de la République qui parlait même, pendant son premier mandat, d'état profond, en parlant de la diplomatie. La diplomatie, c'est quoi? C'est des gens qui vont parler avec des gens d'en face, des gens très très bien formés, qui connaissent les situations à l'international, etc., et qui vont négocier parce que on est beaucoup à penser que il vaut mieux se parler et avoir des échanges que se taper sur la gueule et
envoyer nos gosses au casse-pipe.
Et voilà. Et parce que au final, une guerre, c'est ça, c'est des enfants ou des jeunes adultes qui vont se taper dessus, qui vont servir de chair à canon, c'est des parents qui font, enfin des pères très souvent, qui font des orphelins, qui font des veuves, voilà, c'est pas intéressant, et on sait que quand on en revient, quand on est soldat, hein, c'est traumatisant, c'est vraiment désagréable comme expérience.
Oui.
Donc là, il parle.
Il y a rien de positif
bien.
Avec la guerre, quoi.
Bah, il me semble bien, oui. Ça a été suffisamment expliqué, suffisamment démontré. Voilà, là, ce qui, on l'a pas choisi là, mais il y a la chanson de Boris Vian, Le Déserteur, qui par exemple, hein, parmi d'autres, la chanson de Crown, etc., qui sont des témoignages relativement anciens pour dire que
oui, la guerre, ça, on n'a jamais voulu faire la guerre. Enfin,
c'est naze. Bah, il y a des gens qui veulent la faire.
C'est
hein,
ça, mais il y a jamais personne qui était sur le terrain qui a kiffé. Voilà. Qui était de la chair à canon. Ils disent tous qu'ils veulent pas y retourner pour le coup.
Bah c'est ça. Après, il y a quelques
où ils y retournent dans des mauvais parce que il y a des traumatismes derrière. Et c'est vrai que là, dans la solution que le chef d'état-major il propose, il propose de rentrer dans une économie de guerre. C'est pour ça qu'il dit non seulement, bon, faut savoir sacrifier ses enfants, mais il faut aussi adopter une position économique de guerre.
Ouais.
Sauf que, et ça c'est assez intéressant, pourquoi est-ce que la Russie cherche à faire la guerre et pourquoi on pense qu'elle va chercher à faire la guerre même après avoir pris l'Ukraine si elle la prend? C'est parce que toute l'économie russe se base sur l'armée et sur la guerre. C'est-à-dire que si on retire ce climat de guerre pour la Russie, ils n'ont plus d'économie.
Avec une contradiction énorme quand même, c'est que la même semaine, on a ce discours et on apprend que ArcelorMittal, c'est ça, va fermer, alors que c'est une des plus grandes usines de production, enfin en entreprise de production d'acier et de métaux en général. Donc, il faut qu'on se mette en économie de guerre, mais avec quelle industrie en fait?
Oui, non seulement, et là on voit aussi un des problèmes, mais ça c'est on va dire un problème qui est reproché pas seulement à la France, mais à tous les pays autour, de trop être dépendants les uns des autres, mais aussi, et moi le truc c'est, rentrer en économie de guerre, c'est se condamner à faire la guerre aussi. En général, on rentre en économie de guerre quand il n'y a plus le choix, parce qu'une fois qu'on est rentré dans l'économie de guerre, une fois qu'on a fait des bombes, il faut les utiliser.
C'est ça.
Et... bah, c'est vrai que là, cette solution qui est proposée, il faut être capable de faire des sacrifices. Les sacrifices, on les fait si on en a besoin. Or, on ne sait pas encore si on va en avoir besoin pour le moment. On peut se préparer à lancer ce processus. Et c'est pour ça que là, la proposition que Emmanuel Macron a fait il y a 3 jours de mettre en place un nouveau service militaire volontaire pour les jeunes, elle est peut-être pas débile au final d'avoir une réserve, ok peut-être. Par contre, se mettre dans une économie de guerre où on va se mettre à produire massivement encore plus d'armes qu'on le fait, parce qu'on est un des plus gros producteurs d'armes de la planète déjà, ça veut dire qu'on va faire la guerre. Et est-ce que...
ça veut dire qu'ils le souhaitent, et bon, il faut pas oublier que... là, le président Macron, il sort d'un immense échec, c'est celui du SNU.
Oui.
Qu'il a essayé de nous caler pendant des dizaines d'années, enfin pendant une dizaine d'années en tout cas. Là, apparemment, ça a été abandonné. Il revient avec ce programme de conscription volontaire qu'on comprend pas bien ce qui va motiver les gens à y aller, parce que t'auras un salaire de 800 balles par
c'est
mois.
C'est 700 balles par mois, oui, s'ils sont payés au lance-pierre.
700 balles par mois
coup.
Pendant 10 mois.
Voilà.
Donc tu sors de là, t'as 7000 balles dans la poche. Bon, alors, c'est vrai que t'es nourri, logé. Mais
ensuite, il y a
en
ce
même
truc...
temps, avec 7000 balles, tu vas pas bien loin. Et t'as perdu 10 ans de ta vie alors que t'as la vingtaine.
Alors, pour le coup,
moi,
ce serait sûr.
Je pense pas que ça va faire... qu'il va y avoir plus de monde que les gens qui s'engagent déjà, quoi, actuellement. Non, moi, à mon sens, si on veut une armée de métier, il faut... bah, il faut donner envie, quoi.
Bah, ensuite, pour le coup, alors, c'est une formation, le service militaire volontaire, là, c'est une formation d'un an et qui donne des crédits universitaires. C'est-à-dire que on a plus de chances d'être admis dans une fac en sortant du service militaire aussi. Donc, en fait, ce serait quelque chose qui... une critique que j'ai vue qui était faite par des organisations de jeunes, c'était... quelque chose qui amènerait les populations, notamment populaires, qui sont pas forcées, qui sont rejetées, on le sait, systématiquement par Parcoursup, où on leur dit, bah, va faire l'armée pendant un an, et comme ça, après, tu peux trouver ta fac.
Mais le problème, c'est que Parcoursup, encore une fois, on revient sur le même problème de Parcoursup, c'est que Parcoursup, c'est une boîte noire.
C'est ça.
Nous, t'es en plein dedans, là, puisque l'année prochaine, normalement, t'auras eu ton bac. Parcoursup, tu rentres toutes tes données là, ce que t'as fait, tes notes, tes carnets de notes, tes bulletins scolaires, tes envies, etc. Tu cliques sur envoi, ça les envoie à des facs et tu sais pas trop comment, tu sais pas trop sur quels critères. Des fois t'es pris, des fois t'es pas pris. Donc est-ce que ça va compter dedans? Peut-être. Mais par contre, il faudra attendre quelques années pour voir si effectivement ça a des effets, puisqu'on n'est pas capable de le quantifier.
Pour le moment, les conclusions, il y a eu des rapports qui ont été faits et les Parcoursup discriminent les enfants pauvres, enfin dans le sens que les moins fortunés, et discriminent aussi et notamment sur l'endroit où vous habitez. Si vous habitez en ville, vous avez 2 à 3 fois plus de chances de trouver une fac, quoi. Donc, c'est un truc qu'on sait déjà, et c'est vrai que ce service militaire volontaire qui donne des crédits, j'ai oublié, ça s'appelle des ETC, il me semble, des crédits universitaires, en gros, et bah, ça, c'est un peu conjoint pour envoyer les élèves les plus pauvres, et du coup, ceux avec lesquels on a le moins de mal à les envoyer au casse-pipe, quoi, de les réorienter directement et dire, bah, c'est bon, vous pouvez être envoyé à l'armée quand on aura besoin de vous.
Moi, toute morale mise de côté, parce que la morale, je ne l'applique pas aux individus. Je veux dire, si quelqu'un sent que aller travailler dans l'armée, ça va le faire grandir, ça lui ouvrira des portes professionnelles ou quoi que ce soit, moi, je le respecte totalement. Par contre, quand l'armée fait des promesses, j'espère qu'ils vont les tenir et j'espère qu'ils ne vont pas décevoir les gens qui vont se mettre dans ces projets. Et pour l'instant, les garanties, elles sont faibles, notamment parce que, ben voilà, on retombe là-dessus, on est dans l'opacité. On ne sait pas si la petite récompense qu'on promet aux jeunes qui vont faire ce service militaire, ils vont vraiment l'avoir ou pas, parce que Parcoursup est complètement opaque.
Voilà. Alors ensuite, moi je voulais revenir un peu sur ce ton alarmiste du chef d'état-major qui en fait est pas vraiment surprenant. On le retrouve d'ailleurs dans les discours de tous les chefs des forces armées de tous les pays européens. Il y avait le chef allemand, suédois, polonais qui s'accordent tous pour dire, et à raison je pense, hein, que la Russie s'arme et qu'ils s'arrêteront pas à l'Ukraine. Enfin, que la Russie s'arrêtera pas à l'Ukraine. Bah, et c'est vrai qu'en fait, ils ont pas tort. Pourquoi? Et bon, bah, je l'ai dit déjà un peu avant, en fait. La Russie, c'est une économie de guerre qui ne peut exister que s'ils continuent de faire la guerre. Et je me dis, est-ce que c'est... Mais ça, on le sait. En fait, ça fait un moment qu'on le sait que la Russie, ils font tout leur argent là-dessus. Ça fait au moins 10, voire 20 ans qu'on sait que la Russie le font. Enfin, l'annexion de la Crimée, c'était il y a 10 ans, il me semble.
Oui, mais ils n'avaient pas encore de belligérance. C'est-à-dire que l'annexion de la Crimée, elle s'est faite de manière éclair.
Oui, enfin, la Russie de Poutine, on sait que Poutine, il a ce désir violent de s'armer et d'aller conquérir les pays à proximité, voire plus. Moi, ma question, c'était aussi qu'est-ce qui a été fait depuis 10 ans à l'armée? Et
Je crois que le travail, il a été essentiellement diplomatique.
Il a été diplomatique et même...
Je pense qu'il y a beaucoup de combats qui sont faits à l'extérieur. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, là, au Mali, au Congo, dans laquelle la France était impliquée il y a encore quelques années, hein, il y a 3-4 ans, il y avait encore des forces armées de maintien de l'ordre françaises dans ces pays. Et aujourd'hui, la France n'y est plus et c'est la Russie qui y est.
Voilà. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que la Russie et la Chine même. Enfin, il y a ces questions de la Chine aussi au Congo. Enfin, j'apporte ça. Hein. Au Congo, la Chine, c'est le propriétaire principal des mines de minerais rares.
Voilà.
Ce qui fait qu'ils ont une grosse... Oui, c'est vrai, il y a ça aussi.
Donc, le combat s'est fait aussi sur ce terrain, par proxy. Par proxy, c'est-à-dire... avec quelqu'un d'autre, pas un intermédiaire. C'est-à-dire que la France forme une faction armée sur un territoire extérieur. La Russie forme une autre faction, il se tape dessus, et c'est celui qui gagne, quoi. À des niveaux à la fois militaires et diplomates. Bon, la France qui s'est fait bouter hors de ces pays, probablement a raison, hein, parce qu'il y avait tout un sous-texte comment néocolonial auquel j'adhère pas, mais bon, l'histoire nous dira si les peuples vont être plus heureux après avec la Russie ou pas. Moi, j'ai l'impression qu'on a on a échangé la peste contre le choléra pour les gens qui habitent là-bas.
Bah bien sûr, voilà. Du coup, moi, je voulais juste finir sur quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant au niveau de la publicité. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, si vous prenez régulièrement le bus ou le métro, vous l'avez peut-être vu. Il y a beaucoup de, ou même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de pubs de l'armée et des prisons aussi pour essayer de recruter des jeunes pour devenir soit s'intégrer à l'armée de terre, soit devenir gardien de prison. Mais ce que vous aurez peut-être aussi remarqué, c'est qu'il n'y a pas ces pubs pour la marine et l'armée de l'air, ou en tout cas beaucoup moins pour l'armée de l'air. Non mais pourquoi? Et ça c'est très intéressant. Les jeunes sont déjà dans l'armée, notamment dans la marine et l'armée de l'air, sauf que là c'est pas des jeunes qu'on envoie au casse-pipe qui sont de la chair à canon. Non, c'est des jeunes qui sortent d'écoles d'ingé ou en tout cas de grandes écoles. Pourquoi? Parce que c'est la marine, on n'a pas besoin de gens qui suivent les ordres bêtement, on a besoin de gens qui savent gérer, on a besoin de gens formés. Et pour ça, ils ont aucun mal, l'armée. Et ça, c'était un des sénateurs qui en avait parlé, qui avait dit que l'armée n'a aucun mal à recruter dans les positions où il y a besoin de réfléchir, en fait. Mmh. Parce que les jeunes s'engagent déjà dans l'armée et dans la diplomatie aussi. Ensuite, il y a plein de diplomates qui sortent de Sciences Po. Enfin, ça, on le sait, ou de la. C'est pas Sciences Po pour la diplomatie, il y a un concours et une école spécifique. On a déjà plein de jeunes. Et aujourd'hui, ce qui manque, entre guillemets, à la France et qui est recherché et que là, le chef d'état-major aborde, c'est dire, en fait, on a besoin de chair à canon. Mmh. Et c'est vrai que. La question coloniale, on pourrait en parler aussi ici, parce qu'en fait, fut un temps, la France avait cette réserve de chair à canon dans ses colonies qu'aujourd'hui, il faut aller chercher autre part. Sauf que vu qu'on a une population qui est éduquée, qui en fait n'a pas envie, parce qu'on sait ce qui arrive à la chair à canon, qui n'a pas envie d'aller se faire désinguer à l'autre bout du monde, bah c'est vrai que ce problème se pose là, alors qu'il se pose pas pour des opérations, on va dire, plus réfléchies. Voilà.
Ouais.
Donc au final, est-ce qu'on serait pas un peu victime de notre propre système d'éducation
Oui, alors, puis moi je rapproche ça c'est quasiment un fait divers qui a eu lieu là, où des matons étaient allés dans un lycée il y a quelques semaines là,
Oui.
pour montrer aux gamins comment c'est bien d'être maton, et en fin de compte ils les ont savatés pendant une demi-journée.
C'est ça, et...
Donc il y a des lycéens qui se sont fait savater par des matons, et le message qu'ils souhaitaient faire passer, c'est bien d'être maton, on peut taper des gens.
Voilà, c'est
visiblement,
ça.
Visiblement, c'était ça le message qui a été donné, et forcément, c'était pas Henri IV, quoi. C'était pas un lycée du centre-ville parisien. Hein. Mm-hmm. C'était en banlieue. Les publicités pour embaucher pour l'armée, quel que soit le corps d'armée, hein, bah, c'est sur les arbribus en banlieue. Mm-hmm. C'est bon.
Oui, bah, c'est sûr que c'est quelque chose qui est, comment dire, assez. On sait quelle population, quand le chef d'état-major parle de sacrifier, de perdre nos enfants, on sait de quels enfants on parle, quoi.
Alors, c'est desquels dont on parle? Parce que si tu laisses les trucs en suspens comme ça, ça fait un peu con.
Je sais. Pour le coup, c'est vraiment les enfants pauvres, quoi. Enfin, c'est les classes populaires, c'est les classes où... Bah, comme dans les guerres précédentes, hein, on a envoyé d'abord les personnes... que ça dérangeait moins de sacrifier, quoi. Enfin, c'est pas de sacrifier. C'est pas les enfants de bourgeois qui vont être envoyés au casse-pipe. Voilà. Bon, je pense qu'on peut passer un peu de musique.
Ouais, là, on va se détendre un peu maintenant.
Voilà, on va passer.
Pourquoi est-ce que tu parles toujours d'armée dans ton émission, là?
C'est que la deuxième fois.
Oui, bah ça m'énerve. Les deux fois, ça m'a énervé. Qu'est-ce qu'on met comme musique?
On va passer Army of Me de Björk.
You
Badaboum, c'était Björk sur Radio Cause Commune, vous êtes à l'écoute de l'émission.
Ouvre-la, vous êtes soit en direct le 30 novembre en FM 93.1 ou en DAB ou sur le site de la radio cause-commune.fm.
Et si vous n'êtes pas en direct, vous êtes en diffusion, vous êtes en train de nous écouter en podcast, mais ça vous le savez déjà parce que c'est vous qui avez cliqué sur play. Et merci beaucoup de nous écouter.
Voilà. On va parler d'un truc un peu plus cool que les jeunes peuvent faire, parce que les jeunes, c'est pas que aller se faire dézinguer à la guerre. C'est aussi, par exemple, hein, à tout hasard, lutter pour l'égalité. En tout cas, dans mon lycée, c'est ce que les jeunes font. On a un dispositif d'ambassadeur ou ambassadrice de l'égalité, donc des élèves qui vont s'investir pour améliorer l'égalité au lycée ou rendre le lycée plus égal entre élèves ou même entre membres en général de la communauté éducative. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui est ambassadrice de l'égalité et que j'ai pu interviewer. Merci à elle, on écoute ça tout de suite.
Là, je suis en terminale générale. Voilà. L'égalité, c'est-à-dire qu'on me traite de sale femme. Je sais pas. Non, c'était une question.
Ah non, en général, ça peut être du sexisme, du racisme.
Se faire dépasser à la cantine et on te dit t'excite pas. Parce qu'il m'a marché dessus. On m'a proposé de devenir ambassadrice de l'égalité. Waouh! Et du coup, j'ai accepté. Sur les temps du mardi, je crois, on faisait des petites réunions pour voir ce qu'on pouvait faire pour lutter contre les inégalités.
Et concrètement, qu'est-ce qu'on a fait au lycée ?
Beaucoup de choses, même si on n'organisait pas les choses, parce que on n'est pas très motivé. Si on est super motivé, mais c'est juste qu'on n'a pas les compétences et on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire. On avait des professeurs qui nous appelaient et qui nous disaient « Oui, ce mois-ci, c'est octobre, faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose en rapport. Il y a la journée internationale contre les violences, donc on pourrait peut-être organiser quelque chose en lycée. » Et du coup, on trouvait des idées, on collait des affiches, on proposait à d'autres gens de venir et voilà. On a trouvé des slogans nous-mêmes, souvent c'était pas très inspiré, mais c'est déjà ça. On a distribué des violentomètres. On a beaucoup de stocks de violentomètres. C'est un petit morceau de papier. Non, en vrai, c'est un appareil de mesure qui mesure la violence, qui te dit quand est-ce que tu dois demander de l'aide. Par exemple, frapper quelqu'un. C'est dans le vert ou dans le rouge ?
Je sais pas.
Dans le rouge, bien sûr, dans le rouge. Ça fait toujours plaisir de voir les gens se balader avec les violentomètres, en discuter. Ça fait plaisir de voir les gens s'arrêter devant les affiches, lire les slogans qu'on colle nous-mêmes à la sueur de notre front. Franchement, ça peut marcher, je pense. Mm-hmm. bah, je m'investirais pas autant si c'était pas quelque chose qui me tenait à cœur. Donc oui, évidemment, la lutte pour les femmes, on est là. Pour tout, en fait, les luttes contre les inégalités en général, on est là. Oui. Bah, on a mentionné les violences tout court qu'on peut subir rapport professeur-élève ou sinon juste bah, sexiste, mais peut-être même les femmes envers les hommes. On a aussi tout ce qui est du racisme, de la discrimination. Et on pourrait travailler sur ça. Faut voir quand est-ce qu'on peut faire ça dans le lycée. S'il y a des jours qui sont bien. Direction. des fois on nous autorise pas à mettre certaines affiches parce qu'elles sont trop violentes, mais le but c'est de choquer, le but c'est de montrer la réalité des choses, et on peut pas mettre des affiches qui montrent la vérité. On est obligé de faire des petits non harcèlement comme si ça allait attirer réellement l'attention de quelqu'un. Enfin, on peut pas faire de choses grandioses qui vont vraiment faire bouger les choses, mais de manière vite.
Bah, donne des exemples.
Ah bah, on pourrait tous manifester, mais bon, on peut pas. Des affiches où, par exemple, on met juste un petit mot un peu vulgaire, par exemple, sale pute, ça ne marche plus, alors que clairement, c'est des insultes qu'on reçoit bah, H24, même si t'es un homme, tu peux recevoir le sale pute. Et tu ne peux pas l'afficher dans le lycée parce que la direction, c'est trop violent, on peut pas faire ça. Alors que ça se passe, en fait.
Et du coup, toi, si c'était toi à la direction, qu'est-ce que tu mettrais en place?
Je sais pas. Moi, c'est pas mon travail, j'en ai aucune idée. En tout cas, ils le font mal. Alors, point positif, on a des professeurs qui sont très engagés, qui organisent beaucoup de choses et qui participent activement du coup à la vie du lycée. Donc ça la rend super cool. On est bien. Mais bon, il y a toujours des contreparties. Il y a certains professeurs qui sont beaucoup trop crus, qui font pleurer des élèves constamment dans la cour. Et c'est pas une question de la matière, elle est trop dure, on est trop nul. C'est vraiment, ils envoient des vidéos où ils te ridiculisent, vous dites vous êtes nul. Et bref, tout ça, c'est pas pris au sérieux par la direction. En tout cas, j'ai pas l'impression. Et même si on va se plaindre, en vrai, ça ferait rien. Moi, mon idée, c'était de récupérer des témoignages et du coup, de les distribuer. Et je voulais faire une partie confession où quelqu'un pouvait parler, mais en fait, le problème, c'est l'anonymat, vraiment. Bon, après, on peut faire un parloir. On met un rideau, bref, on reconnaît la voix, mais on met un modulateur de voix, on a des micros. Tout ça, on peut le faire pour vraiment qu'on ait le témoignage de quelqu'un et pas juste des mots écrits sur un mur en mode « Oh, c'est triste de se faire traiter de gros nuls. » Voilà, comme... Oui. Non, franchement, le racisme, je le subis pas tant. C'est vraiment, je pense, les relations entre les gens qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Même les surveillants, en général, hein, je mangeais une glace qui venait de la cantine, dans la cour. On est tranquille sur un banc, et il y a une surveillante, elle ouvre la fenêtre, elle dit « Alors, c'est interdit dans le règlement. » Je suis allée voir le règlement. Il y a marqué nulle part que j'ai pas le droit de manger la glace qui vient de la cantine. J'ai lu le règlement, d'accord. On peut pas prendre de la nourriture de l'extérieur et à l'intérieur pour des raisons sanitaires. Mais par contre, la glace de la cantine, je la prends, je la mange, on me dit « Dépêche-toi, c'est interdit, hein. C'est marqué noir sur blanc sur le règlement. » Ça doit être ça. Et je sais très bien que si je rétorque en disant « Bah non, c'est pas écrit », on va me dire « Bah ça me paraît logique, vous êtes dans l'établissement ici, vous ne mangez pas, voyons. » Donc bon.
Voilà, merci beaucoup à cette amie. Alors, elle a voulu être anonyme, mais c'est très très cool de sa part d'avoir accepté que je l'interview. Puis c'était intéressant quand même d'avoir cette vision de concrètement qu'est-ce que les ambassadeurs et les ambassadrices de l'égalité font au lycée.
C'est quoi cette histoire d'ambassadeur de l'égalité ?
En gros, c'est des élèves volontaires à qui on a demandé si, enfin, on a demandé aux élèves s'ils voulaient s'investir dans les on pour l'égalité. Le lycée, ouais. Le groupe de profs dont elle a parlé avec des CPE d'ailleurs, sont organisés et ont demandé à des élèves s'ils voulaient s'organiser pour l'égalité au lycée. Et à partir de là, c'est les élèves qui ont pu porter leur projet personnel. et faire un peu ce qu'ils veulent. C'est toutes les initiatives.
Presque ce qu'ils veulent. Là. On a entendu qu'il y a quand même un...
Toutes les initiatives partent de nous. Après, elles doivent passer par plusieurs épreuves. Premièrement, elles doivent passer par des réunions qu'on organise en général pour voir concrètement, en termes même matériels, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et après, elles doivent passer la terrible épreuve de la direction pour voir si c'est approuvé. Et c'est vrai que autant au niveau termes utilisés, etc., on a eu pas mal de limitations. Autant pour typiquement tout ce qui est faire des choses, tant que ça coûte pas d'argent, en général, on n'a pas trop de problèmes. Voilà.
Vous avez réussi à mettre des affiches féministes ?
Ouais, on a pu ça, on l'a fait plusieurs fois même. On a fait les collages, des choses qui marchent très bien, les collages de slogans féministes, tu sais, les lettres noires sur feuilles blanches qu'on colle une par une avec des slogans. L'amour pas en bleu, par exemple, avec bleu écrit comme les bleus, contre les violences conjugales. Voilà. L'amour ne tue pas, tout ça. Non, pour le coup, c'est un projet qui marche très bien.
Mais on a compris que vous n'avez pas pu marquer sur les murs « Je ne suis pas une pute ».
Oui, ou même sur les affiches. On a aussi réutilisé des campagnes d'affiches d'autres associations.
Ouais.
Et même là, ou même quand c'est sur le harcèlement, hein. C'est vrai que quand plus personne se fait traiter d'un télo, ou en tout cas assez rarement au lycée, les filles.
Que c'est en train de faire de l'ironie là.
Non, pour le coup, un télo c'est pas vraiment. Quand on se fait harceler, on se fait pas traiter d'un télo en général au lycée.
D'accord.
On se fait plus traiter de sale merde, en fait. De ce qui est remonté, c'est vrai que les insultes. Sont plus violentes, sont assez violentes dans les situations de harcèlement.
Ouais. J'ai pas son prénom. J'étais en train de chercher son prénom, mais ça tombe bien parce que je ne l'ai pas. Ta camarade parle du violentomètre. Qu'est-ce que c'est comme outil ? Elle nous dit que c'est un outil de mesure de la violence.
Ouais, alors comment ça se présente un violentomètre ? On le mettra sûrement sur la page web. C'est ça se présente sous la forme d'une règle, comme un peu un marque-page, j'imagine, de 5 cm sur 15, je dirais, qui va du vert au rouge, et avec, dans les relations, notamment amoureuses, des comportements qui soit sont dans le vert, donc safe et bon, avec typiquement te respecte, respecte tes choix, etc. Et plus on descend, plus c'est des comportements qui ne sont pas ok. Avec à chaque fois une indication de qu'est-ce qu'il faut faire si on se retrouve dans cette situation. Donc à peu près au milieu, il y a t'humilies, t'empêches de voir tes amis, etc. Où c'est des choses qui sont mauvaises et écrit stop, dis stop et soit arrête la relation, soit remets en question ta relation. Et après tout en bas, c'est te force à avoir des rapports sexuels, t'agresse, etc. Et là, c'est contacte les autorités, appelle la police en gros, pour savoir à peu près, parce que c'est aussi des choses dont on n'a pas forcément conscience en fait dans ces relations.
D'accord, c'est un petit support papier quoi pour t'aider à évaluer si la relation dans laquelle t'es est saine ou si elle est carrément pas saine et qu'il faut.
Non seulement, et puis prendre conscience aussi, même si on n'est pas dans une relation, de ce qui est ok et ce qui n'est pas ok.
Oui.
Typiquement, et avec des choses, contrôle la manière dont tu t'habilles. Il y a certaines personnes qui vont trouver ça acceptable, que ton copain il te dise « Ah non, tu sors pas comme ça ». Et avoir ça, et le violentomètre, c'est quelque chose qui est pratique parce que ça, on va dire, repose le cadre, quoi. Ça repose des règles un peu élémentaires qui sont pas forcément évidente en fait sur ce qui est ok, ce qui est pas ok. Voilà. Ensuite, c'est vrai que, enfin, pour le coup, moi, le projet d'ambassadeur de l'égalité, ça date de l'année dernière, et c'est quelque chose j'ai trouvé qui, pour le coup, qui marche assez bien. On a pu faire en vrai pas mal de choses dans tout le lycée, outre les collages d'affiches. On a fait des journées à thème, typiquement le 25 novembre. On a eu une grosse journée, parce que c'est la journée contre les violences faites aux femmes, où on a pu avoir un violentomètre géant d'un peu plus de 2 mètres de haut, il me semble, où les gens pouvaient mettre dans les zones les comportements qu'ils trouvaient ok et pas ok. Ça créait plein de débats, c'était super cool, parce que toute la journée, un peu partout dans le lycée, on entendait des gens en parler. Et bah, c'est vrai que pour le coup, ça marche, j'ai l'impression, en tout cas. En truc un peu plus concret, c'est vrai. C'est moi qui ai poussé pour. Parce que oui, je suis ambassadeur de l'égalité dans mon lycée, du coup. Moi, j'avais un peu poussé pour qu'on ait une aide concrète. Et c'est vrai qu'on a eu une psychologue spécialisée dans les violences, en fait, qui était présente sur cette journée-là. Pour pouvoir aller recueillir s'il y avait des élèves qui avaient besoin de parler de choses, quoi. C'est plus pour dire qu'on fait pas que des affiches jolies, etc. On fait aussi du concret, où on essaye de mettre en place un pôle d'écoute pour les élèves qui subiraient des violences. Donc c'est pour le coup plein de choses assez concrètes aussi qui améliorent la vie au lycée, quoi.
Il y a un sujet qui a été abordé là dans l'interview que tu as mené par ta camarade, qui est celui des violences, en l'occurrence verbales, des professeurs envers les élèves. C'est un sujet que vous avez abordé. Elle parle de vidéos, par exemple. C'est quelque chose dont tu as été témoin aussi.
Bah, pour le coup, c'est vrai que les violences de prof à élève, c'est un sujet que cet ami et moi, on est vraiment assez investis. Sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que c'est, comme elle le dit, la violence qu'on subit le plus et le plus régulièrement, que ce soit des humiliations, que en classe, typiquement, des profs qui vont dire « Ah non, mais toi, tu peux pas parler, t'as eu la pire note ODS devant tout le monde. » pour le coup, des situations qui sont mauvaises, en fait, qui sont pas OK. C'est écrit sur le violentomètre, hein, l'humiliation c'est dans le rouge. Et c'est vrai qu'on se bat assez régulièrement, enfin on se bat pour que ça puisse passer par des, comment ça s'appelle, des canaux comme ça, comme approuvés par la direction, on va dire, pour changer le lycée. Le projet en ce moment qui vient et que moi j'essaie de supporter, ce serait d'avoir une espèce de charte de communication qu'on fasse signer aux profs et aux élèves, enfin surtout aux profs mais aussi aux élèves du coup, qui dit on n'est pas censé humilier quiconque, on n'est pas censé faire des distinctions selon le genre pas discriminer entre les élèves, que ce soit des choses qui soient déjà garanties par la loi et qu'on doive répéter, ou des choses qui sont pas écrites concrètement mais qu'on pense des choses dont on a besoin pour étudier de manière sereine. Voilà, parce que c'est vrai que même sur le sexisme, j'ai envie de dire, les profs de sport qui vont systématiquement sous-noter les meufs, en rugby typiquement, c'est du sexisme, en fait. Et pourtant, il n'y a rien qui est fait aujourd'hui, parce que je prends cet exemple parce que c'est ce qui est arrivé au lycée cette année. C'est quelque chose où, concrètement, les élèves, quand ça leur arrive, ils savent pas à qui en parler. Pareil, quand on se fait humilier par un prof, quand il y a une prof qui va prendre un élève à part ou devant toute la classe pour lui dire, en gros, t'es une merde et t'as pas d'avenir. Je pense que des profs qui disent à leur classe qu'ils ont pas d'avenir, c'est quelque chose qui est assez vécu par un peu tous les élèves. Et les élèves ne savent pas à qui s'adresser quand ce genre de choses qui ne sont pas normales arrivent. Et c'est vrai que, notamment cette amie, et d'ailleurs je la remercie vraiment, quoi, on est très très investi dans le fait de pousser sur ce sujet-là pour avoir cette égalité-là au lycée. Parce que, et ça c'est le truc qu'on aime bien rappeler, il y a écrit liberté, égalité, fraternité sur notre lycée. Et que si on peut pas garantir de l'égalité au lycée qui est censé nous former à ça, comment est-ce qu'on veut devenir des citoyens qui respectent les valeurs de la République, quoi. Voilà. Je pense que c'était bien.
C'était un très bon sujet. Et voilà. Merci beaucoup à ta camarade d'avoir répondu à l'interview, parce que ça fait un très très beau sujet.
Voilà. Voilà. Non, c'est... Ouais, vraiment, merci à elle. Et merci à tous les ambassadeurs d'ailleurs de égalité qui permettent les élèves bénévoles, encore une fois, hein, qui prennent ça sur leur temps libre pour organiser ça au lycée.
On se met un petit peu de musique et ensuite on parle des prud'hommes.
Exactement, on va mettre Your Best American Girl de Mitski.
On laisse le titre jusqu'au bout, c'est au suivant sur Radio Cause Commune. Au suivant.
C'est pas du tout au suivant.
C'est pas du tout au suivant. C'est Ouvre-la.
C'est Ouvre-la
ce soir. Ouvre-la cet après-midi. On est le dimanche 30 novembre. C'est Ouvre-la. Les Ouvre-la, c'est les.
Une émission de lycéens. Voilà. Tu te trompes entre tes émissions, voyons.
Quelle honte.
Voilà. Cela dit, on peut faire de la pub pour au suivant. Hein. Au suivant, un mardi sur deux.
À peu près. Pour l'instant, c'est pas tout à fait calé, mais on essaie d'avoir au moins deux émissions ouais, par mois.
Voilà.
Le mardi soir, 20h, 21h, on passe de la musique.
Voilà. On peut quand même passer à notre troisième sujet. Alors, cela dit, vous êtes toujours sur Cause Commune, cause-commune.fm, ou en FM 93.1, ou en DAB, ou en podcast, en rediffusion, tout ça. Pour finir, on va vous parler... Enfin, je vais vous parler d'ailleurs d'un sujet que j'aurais pas pensé qui m'intéresserait autant. C'est le Conseil des Prud'hommes. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que moi, je suis en option droit dans mon lycée. Alors, si, pour être précis, c'est DGEMC, droit et grands enjeux du monde contemporain.
Alors, droit et grands enjeux du monde contemporain.
Ouais.
Ok.
Voilà. Mais en gros, c'est du droit. Hein. Une des instances du droit en France, c'est les conseils des prud'hommes qui sont un peu partout en France. Alors, concrètement, à quoi ça sert? C'est de la juridiction du travail. C'est pour régler les litiges, donc les problèmes entre employeurs et salariés. En France, on a du coup 216 conseils des prud'hommes. Il y en a au moins un dans chaque tribunal judiciaire, voire plus si besoin. Et concrètement, il y en a on a besoin de plus. Pourquoi ? Parce que les prud'hommes, ils gèrent plus de 100 000 demandes par an en France. Voilà. Concrètement, comment ça s'organise ? Et c'est ça qui va m'intéresser. C'est que donc c'est un conseil, on parle de conseil des prud'hommes, pourquoi ? Parce qu'il y a, bah, il y a des conseillers. Les conseillers, c'est des bénévoles qui se présentent dans des émissions, des élections qui sont organisées par l'État en gros. Ils sont élus pour 4 ans avec toujours vraiment quelque chose qui insiste toujours dans toutes les démarches, mais dans les élections surtout. Il y a une parité entre les employeurs et les salariés. C'est-à-dire que sur les 14 500 bénévoles à peu près qui sont élus pour 4 ans, la moitié sont élus par des salariés et sont censés être représentants de salariés, et l'autre moitié sont élus par les employeurs et sont censés être représentants des employeurs. Voilà. Ils sont rémunérés quand il y a besoin par l'État. Donc, c'est-à-dire que soit vous êtes au conseil des prud'hommes et vous êtes aussi salarié dans une entreprise. Et dans ce cas-là, vous avez 4 à 6 jours où vous ne serez pas au travail, vous serez au conseil des prud'hommes et c'est l'État qui va rembourser à votre employeur ces 4 à 6 jours. Soit vous n'êtes pas obligé d'être employé en fait ou de travailler pour être au conseil des prud'hommes. Il y a beaucoup de retraités et de chômeurs. Faut avoir juste exercé dans les 10 dernières années et du coup pour eux ils sont payés pour chaque moment qu'ils passent en fait au conseil des prud'hommes. Ils sont payés cette fois par l'État et ils ont un rôle un peu spécial et un statut surtout un peu spécial de salarié protégé. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes au prud'homme, en général, surtout du côté salarié, c'est aussi des employés qui vont être syndiqués. Et c'est pour éviter qu'il y ait de la discrimination qui soit faite par les employeurs qui vont virer un tel employé parce que il est, en plus d'être syndicalisé, il n'est pas tout le temps au travail parce qu'il est au conseil des prud'hommes. Voilà. Et du coup, en termes d'organisation, alors chaque conseil est divisé en plusieurs sections. Les sections, c'est en gros, il y en a 5 à chaque fois en fonction du secteur d'activité. C'est-à-dire que forcément, c'est pas les mêmes personnes qui vont travailler sur les conditions des agriculteurs que les conditions du secteur des ouvriers ou des employés de bureau, ça va pas forcément être la même chose. Et du coup, chaque section s'organise en deux bureaux. Un bureau de conciliation et d'orientation, donc avec un conseiller côté salarié et un conseiller côté employeur. Et le bureau de jugement, où cette fois ça va être deux conseillers salariés, deux conseillers employeurs. Avec chaque bureau a un président et un vice-président. Et chaque année, on va échanger si le vice-président, si le président il était côté employeur, l'année d'après, il va être côté salarié. Et à chaque fois, on alterne pour être sûr, et ça va être dans toutes les démarches, qu'il y a autant de représentations salariées que de représentations employeurs. Voilà. Et du coup, pour être conseiller des prud'hommes, il faut juste avoir suivi une petite formation sur concrètement qu'est-ce que c'est, mais ils n'ont pas de formation légale. Alors qu'ils vont concrètement exercer du droit, ils peuvent proposer des sanctions, etc. Et moi, c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant et où je me dis, en fait, on pourrait l'appliquer à plein de situations parce que c'est vraiment de la démocratie, j'ai envie de dire limite pure, quoi. Parce que, ils sont tous élus, tous les conseillers sont élus et ça doit être toujours représentatif. En fait, tout est fait pour que ce soit représentatif. Et je me dis, c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer, mais ne serait-ce qu'à l'école. Pourquoi est-ce qu'à l'école, malgré le fait que les étudiants représentent la majorité des gens qui rentrent dans une école, pourquoi est-ce qu'ils sont représentés qu'à hauteur de 2 ou 3 personnes dans le conseil d'administration, pour en tout une cinquantaine de membres de la communauté éducative. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être fait à parité, surtout quand on parle de vote, quand il va y avoir des votes qui vont être faits pour les lycéens, ou dans ce cas-là, pour les prud'hommes, pour des travailleurs? Pourquoi est-ce que c'est pas fait à parité entre eux, ou à minimum à parité entre les employeurs et les salariés, et du coup la direction et le reste de la communauté éducative, et les étudiants? Voilà. Et du coup, je pense que c'est un modèle qui a des limites. Hein. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti en 2023 sur la question, qui présente aussi les limites. Mais par contre, ce qui précise bien, c'est que c'est un super modèle démocratique d'exercice de la justice, quoi. Et c'est quelque chose qu'on pourrait prendre comme modèle pour plein d'autres situations, je pense, en fait. Voilà.
Donc, les conseils prud'homo, pour toi, c'est une source d'inspiration.
C'est une source d'inspiration. J'aurais jamais pensé dire ça, c'est vrai. Et c'est vrai que j'aurais pas pensé trouver autant d'intérêt sur cette instance de justice assez un peu random, quoi.
Random, en même temps, c'est ça fait partie de notre vie, quoi.
Ça fait partie.
Il y a beaucoup de le rapport salarié, c'est un. On est nombreux à le vivre.
Mmh. Pour le coup, c'est toute une question. Et oui, encore une fois, plus de 100 000 demandes par an faites aux prud'hommes. Pour le coup, c'est vraiment très très important, quoi. Voilà, donc on a le générique qui s'est lancé. Je pense que c'est un peu le moment de dire au revoir, ou en tout cas au mois prochain. Voilà, donc c'était Ouvre-la.
C'est un signal, je pense, ouais.
C'était Ouvre-la, une émission d'un lycéen. On aura parlé du coup du discours du chef d'état-major où il disait qu'il fallait accepter de perdre nos enfants. On a parlé de tout ce qui était égalité au lycée, comment est-ce qu'on peut créer plus d'égalité au lycée.
Et du groupe de travail qui a été constitué dans ton lycée. Ouais.
C'est ça, et encore une fois, merci à cet ami qui a voulu être anonyme, mais qui m'a laissé l'interviewer, c'est très très gentil de sa part. Et puis on aura parlé des prud'hommes. Voilà. Au mois prochain.
Les prud'hommes, comment est-ce qu'on fait pour les saisir?
Et c'est-à-dire, il faut aller voir. On peut passer par son entreprise normalement. On est censé pouvoir passer par son entreprise, c'est pas toujours fait. Sinon, il suffit d'aller au conseil des prud'hommes le plus près de chez nous. Il suffit de regarder sur internet. Le site du service public vous montre de quel service vous dépendez.
Et je conseillerais de demander à un avocat aussi.
Aussi. Voilà.
Très bien. Et merci beaucoup pour ces trois sujets qui ont été passionnants.
Voilà. Et au mois prochain.
Voilà, on donne rendez-vous à tous nos auditeurs le mois prochain, fin décembre.
C'est ça, dernier
dimanche du mois.
Dernier dimanche du mois, on verra si on l'avance un peu ou si on verra.
En tout cas, il y aura une émission.
Il y aura une émission, c'est sûr.
Peut-être qu'on l'aura enregistré avant, peut-être qu'on sera en direct, on sait pas trop, on vous dira, mais de toute façon.
On vous dira tout.
Il y aura une émission. Merci beaucoup, Solal.
Voilà, merci à toi. Et on se dit au mois prochain à cette radio. En tout cas, je pense qu'on va se voir un peu plus entre temps.
À bientôt, Solal.
À bientôt.